Moresquin, pour consolider la paix, reconduisit sa mère et resta pour souper. Nous ne sortîmes de chez ses parents qu'à 10 heures du soir. En chemin, et lorsque nous fûmes arrivés, Moresquin me tint le discours qu'on va lire. « Tu ne me connais pas encore. J'ai raconté plusieurs traits de ma jeunesse à ta tante Bitèze, qui aurait dû la dégoûter de moi et me faire donner mon congé. Mais c'est une buse qui n'entend rien quand une fois on l'a captée. Il faut d'abord que tu saches qu'il est très dangereux de me mettre en colère. Je m'appelle Frappe d'abord, et j'ai pris l'habitude, étant commis aux aides, de donner les coups de façon à blesser ou tout au moins à faire trouver mal. Ainsi, tu t'exposes beaucoup en me résistant. Le plus court pour toi, puisque tu es ma femme et qu'il n'y a plus pour toi d'asile dans le monde, c'est de faire tout ce que je te dirai, ou tu peux te flatter qu'il n'y aura pas de négresse esclave dans tout le nouveau monde aussi misérable que toi. On t'a dit que j'avais rendu ma première femme heureuse. Cela se peut. Mais c'est qu'elle m'aimait dès l'enfance. Elle tremblait devant moi, et elle mettait son bonheur dans tout ce qui pouvait me faire plaisir. C'est ainsi qu'elle a été heureuse. Elle n'en était guère ménagée, et il n'y avait pas autant de temps que j'étais son mari, qu'il y en a que je suis le tien, que je l'avais déjà tapotée de la bonne manière. Mais elle gardait le silence, et elle se prêchait heureuse à tout le monde. Par ce moyen, elle était honorée, respectée, et moi, je me contraignais si peu que le jour de sa mort, je lui ai encore donné un soufflet. J'en ai été fâché, parce que les efforts qu'elle fit pour ne pas pleurer quand on entra auprès d'elle l'ont suffoqué. Je ne voulais pas la tuer, mais seulement l'empêcher de trop se plaindre, parce que cela m'impatientait. Je le lui avais défendu 3 ou 4 fois avant de la frapper. Mais ce n'est pas là ce que je te voulais dire pour te faire entendre combien mes coups sont dangereux. Tu sais, puisque ta mère te l'a dit, que j'ai été très méchant dans mon enfance. Ma mère, qui est une méchante femme, me gâta pour avoir le plaisir de contrarier son mari et ma gouvernante. Je demeurai noué jusqu'à 7 ans. À cet âge, je commençais à croître, et ma mère en parut folle de joie. Je n'étais pas beau. Un certain philosophe vint chez nous, me regarda, et dit à mes parents: « Est-ce là votre fils ?»« Oui, car il ressemble un peu à madame, mais en laid. Il ne sera pas beau. Je ne crois pas qu'il soit bon, car son genre de laideur est toujours le symptôme de la méchanceté. Si vous voulez m'en croire, vous éloignerez de vous cet enfant qui empoisonnera votre vie et vous le confierez à des personnes sages qui ne le perdront pas de vue jusqu'à ce qu'on soit parvenu à réformer son caractère. Je lis dans ses yeux, dans ses traits. Il a une âme noire et la plus méchante possible. » Il me regardait fixement en parlant ainsi. Mon père gardait le silence. Ma mère pétillait, mais elle n'osait parler, parce qu'on avait besoin de l'homme qui me jugeait si sévèrement. J'étais alors dans ma 8e année. Je l'entendais et le regardais noir. Je m'approchais doucement derrière lui et je lui donnais un coup de pied dans l'os des jambes. Il se retourna vivement et dit: « Il prouve ce que je vous disais, il m'a fait du mal. » Et il y porta la main. « Prenez garde, ajouta-t-il, cet enfant vous causera bien des peines. » Il sortit aussitôt et ma mère ne voulut jamais permettre que je fusse corrigé pour ce que j'avais fait. Elle soutint à mon père que j'avais eu raison, que j'avais du cœur de la conception de ne pas souffrir qu'on parlât ainsi de moi. Mon père céda, et depuis ce moment, il me prit en haine. Je le lui ai bien rendu. À mesure que je grandissais, on voyait combien je devenais méchant. Ma mère se plaisait, pour contrarier mon père, à me voir battre la servante et à lui manquer à lui-même. S'il avait osé me toucher, elle l'aurait dévisagé. Il ne s'y exposa pas. Je parvins ainsi jusqu'à l'âge de 12 ans, battant, mordant, donnant des coups de couteau, de canif, de ciseaux aux servantes, ou leur enfonçant à l'improviste des épingles dans la chair. Ce qui m'attira souvent de leur part de bonnes corrections, mais aussi elles étaient chassées dès que ma mère s'en apercevait à son retour. À l'âge de 12 ans, on me donna un maître à danser pour m'apprendre à marcher et à saluer. Je n'étais pas docile, comme bien tu penses, et le maître, qui ne jugeait pas à propos de souffrir de moi, me traitait comme un écolier rebelle et mauvais sujet. Il eut un jour la hardiesse de me donner un coup de pied parce que je me moquais de lui et que je l'empêchais de donner leçon à d'autres écoliers car j'allais chez lui. Un coup de pied dans les jambes fut ma répartie. Le maître me poursuivit. Je m'échappai. Le lendemain, je vins sonner à sa porte. Il ouvrit. « Ah, te voilà !» me dit-il en prenant un bâton. Je descendis rapidement les escaliers, mais je revins une heure après, muni d'une corde, que je tendis à un pied d'élévation dans l'endroit le plus obscur. Je sonnai ensuite très fort. Le maître se douta que c'était moi. Il sortit précipitamment, un bâton à la main, et en voulant descendre, il trébucha dans la corde. Sa tête tomba sur une corniche et il se la fendit, de sorte qu'il en mourut. Il n'y avait pas de preuve contre moi. Mes parents, pour empêcher l'éclat, donnèrent de l'argent à la veuve et l'on parla de m'envoyer aux îles. Mais il ne fut pas possible d'y déterminer ma mère quelque chose que lui dit le philosophe mon ennemi. Elle me défendait en disant que c'était un enfantillage, que je ne me doutais pas qu'un pareil tour causerait la mort du maître de danse et beaucoup d'autres raisons. Mon père céda pour avoir la paix. J'apprenais alors à lire et à écrire. Mon maître venait à la maison et, à chaque visite, il se plaignait à ma mère de ce que je ne m'appliquais pas en sa présence et de ce que je ne faisais rien du devoir qu'il me donnait pour remplir l'intervalle des leçons. Je lui signifiai un jour très sérieusement qu'il eût à ne pas continuer ainsi ou qu'il aurait affaire à moi. La première chose qu'il fit en voyant ma mère, dans un moment où mon père était à la maison, ce fut de rendre compte de ma menace et de son motif. Mon père me traita de monstre, de mauvais sujet. Ma mère elle-même n'était pas contente. Elle me reprocha la perte de l'argent qu'on donnait à mon maître et de ce que je fournissais peut-être une excuse à son incapacité. Elle m'exhorta spirituellement à travailler pour faire voir que c'était plutôt la faute du maître que la mienne si je n'apprenais rien. Elle faisait en même temps des signes à ce dernier, de peur qu'il ne se fâchât de ce qu'elle disait. Il l'entendit bien, mais il était indigné de sa faiblesse. Cependant, il dissimula et sortit avec mon père. Je ne sais pas ce qui fut décidé entre eux, mais le soir, mon père me signifia que j'irais prendre ma leçon chez mon maître. Je ne demandais pas mieux, espérant beaucoup de la liberté que j'aurais de sortir. Mais je fus conduit par un grand écolier qui venait me chercher et qui me ramenait. Je m'appliquai les premiers jours afin de faire comme les autres. Et parce que, ne connaissant encore personne, je ne savais trop à qui m'adresser pour polissonner. Mais au bout de la semaine, ayant à peu près deviné les mauvais sujets de la classe, je tâchai de m'aboucher avec eux et de leur souffler l'esprit de révolte qui devait me venger de mon maître. Je cessai en même temps de m'appliquer. Je n'étudiais plus, j'écrivis mal. Le maître paraissait guetter l'occasion de me corriger d'une manière exemplaire, et il la saisit avec empressement, comme s'il avait eu peur qu'elle ne lui échappât. Dans un moment où j'étais en pourparlers avec un des plus grands écoliers, il me frappa en me disant « Ah, je vous y trouve à déranger les autres !» Et sur le champ, il m'appliqua 5 ou 6 coups de nerf de bœuf, ajoutant « Voilà le martinet qu'il faut à un mauvais sujet tel que vous !» J'étais furieux, mais je dissimulais. Dès que nous fûmes sortis de la classe, je réunis les plus forts et les plus méchants de mes camarades. Je leur représentai que la manière dont je venais d'être traité les attaquait tous dans ma personne, que leur tour pouvait arriver dès le lendemain, à la volonté du maître despote qui venait de faire sur moi, à la recommandation de mon père, un essai de ce qu'il pouvait oser. mon discours fit une impression prodigieuse. Ils poussèrent un cri de fureur, surtout un d'eux, nommé Chabert, dont tu as sans doute entendu parler à cause de sa fin malheureuse. Il jura que si son père lui avait attiré un pareil traitement, il ne lui aurait jamais pardonné. Il m'excita vivement à tirer vengeance du mien. Je l'approuvais, mais je ne me sentis pas la résolution nécessaire. Toute ma vengeance se porta sur le maître. Nous imaginâmes, Chabert et moi, d'engager nos camarades à le lier, à le fustiger jusqu'à satiété de notre part, et à le laisser ensuite en désertant pour jamais son école. Nous fûmes 3 jours à concerter notre projet, entre nous deux seulement. Nous observâmes qu'après la classe, le maître, qui était garçon, demeurait seul pour observer tranquillement nos progrès et préparer les réprimandes ou les encouragements pour le lendemain. Nous résolûmes de choisir cet instant. Quand notre projet fut bien mûri, l'occasion se présenta pour l'exécuter, non pas d'elle-même, mais amenée par nous. Chabert détourna un des meilleurs écoliers et lui fit faire son devoir d'écriture au plus mal possible. Le maître, après notre départ, vint observer les différents papiers. Nous nous étions cachés 4 pour écouter. Chabert, moi, le jeune écolier détourné malicieusement, et un 4e très mauvais sujet, fils d'un contrôleur de barrière. Nous vîmes le maître tenir le papier du fautif et le rejeter d'indignation l'œil étincelant. Il le nota ensuite, avec son crayon, sur le petit livre qui lui servait de mémorial et qu'il enfermait sous clé. Il le posa par hasard en continuant sur le bout de la table, et tandis qu'il avait le dos tourné, l'un de nous eut le secret de le prendre. Nous nous retirâmes vite sans bruit. Notre premier soin, lorsque nous fûmes dans un endroit sûr, fut de lire la note qui concernait le fautif. Elle était ainsi conçue. « Colson, pour excès de mauvaise écriture et négligence impardonnable, le fouet, 23 juin, privé de récréation pendant 3 jours et plainte à son père. » « Mes amis, leur dis-je, vous voyez que nous sommes vexés par un tyran. Il faut nous venger. » On délibéra. Mon avis fut de retourner tous 4, de nous jeter sur le maître dès qu'il aurait ouvert, de le lier, de le fesser et de le laisser ainsi garrotter sur son lit. « Il criera, dit le fautif. Nous lui mettrons un baillon, répondit Chabert. Et en même temps, il tira une espèce de petit bridon de sa poche. Nous retournâmes, nous frappâmes. Le maître ouvrit sans défiance et nous entrâmes. Nous le saisîmes à l'improviste, il voulut crier, Chabert le brida. Il fut déculotté, fessé à outrance, renversé le visage sur son lit, les bras et les pieds garrottés. Nous lui en donnâmes tant que nous pûmes, puis nous le laissâmes presque sans mouvement et ayant à peine la force de nous demander grâce. Les martinets étaient usés jusqu'aux manches. Nous sortîmes ensuite, nous fermâmes sa porte à double tour et nous jetâmes la clé dans les latrines. Le lendemain matin, nous vîmes comme les autres. La classe n'était pas ouverte. On n'entendait pas le maître répondre parce qu'il était dans une seconde pièce dont nous avions fermé la porte. Nous nous en retournâmes tous et nous dîmes chez nous que le maître était absent. Ce ne fut qu'à midi que les voisins firent ouvrir la porte par un serrurier. On trouva le malheureux maître dans la même position où nous l'avions laissé, meurtri de coups. On le délia, le débrida, et il parla pour tout le temps dont il s'était forcément tu. Il nous nomma, mes 3 camarades et moi. On accourut chez nous. Nous fûmes saisis chacun par nos parents. On voulut nous faire avouer, mais nous niâmes tous 3 effrontément, et sans le fautif, qui découvrit toute la trame, on aurait pu regarder le maître comme un fou. L'affaire devint sérieuse. Chabert fut broyé à coups d'un nerf de bœuf par son père. Le 4e fut mis à Bicêtre, à la correction.